Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Hein. Fut un temps, je regardais beaucoup, vous savez, tous ces films-là, tous ces films de policiers, là, les américains, là, vous savez. Alors j'ai perdu le nom, j'en avais un ou deux, là, mais j'ai perdu le nom. Esprit criminel, tout ça, là. C'est pas un péché, hein. C'est pas un péché, c'est pas interdit, je suis pas en train de dire ça. Hein. Mais en ce qui me concerne, je regardais beaucoup ces trucs-là. Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte que, sans que ce soit forcément un péché, ça me mangeait beaucoup de temps. Et sans vouloir jouer au grand spirituel, je me suis dit, si tu passais autant de temps dans la prière que ce que tu regardes tes films, là, ça serait peut-être pas plus mal. Hein. Et je me suis rendu compte en plus que ça ne me faisait pas forcément du bien, quoi. Depuis, le Seigneur m'a aidé. Hein. Je dis tout. Je le dis en passant, peut-être on a besoin de faire attention. Je le dis pour moi, hein, parce que je parle de moi comme ça, je suis tranquille après. Pour voilà, c'est pas que j'aime parler de moi, parce que j'ai horreur de ça. Mais des fois, on a besoin de faire attention. Il y a des choses, ça nous mange du temps. C'est pas forcément un péché, c'est pas forcément interdit. Mais des fois, on se rend pas compte, il y a des choses, ça nous mange le temps. Ça ne fait pas forcément du bien. Vous voyez, et des fois, ça nous fait même passer à côté de certaines choses. Hein. Alors, je dis tout ça parce que il y a 2 semaines de ça, je crois. Je regarde surtout maintenant les infos à la télé. Voilà, je me tiens informé. Et il y a 2 semaines de ça, je ne me rappelle plus si c'était, avant ou après les infos. À un moment donné, il y a eu une espèce d'extrait de film. Je ne sais même plus ce que c'était. Mais là, en regardant ça, il y a une phrase qui a été prononcée et elle a attiré mon attention. Elle m'a interpellé, elle m'a arrêté. Vous voyez, c'est comme si tout le reste n'existait. Cette phrase, elle est ressortie. Et elle m'a tellement fait réfléchir, je vous la livre cette phrase, parce que je me suis rendu compte que ben c'est vrai. C'est vrai. Cette phrase était celle-ci: il faut faire attention aux évidences. Il faut faire attention aux évidences. Ça m'a interpellé et j'ai réfléchi à ça et je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait des textes dans la parole où, effectivement, il faut faire attention aux évidences. Et je voudrais que par rapport à cette phrase-là, on regarde quelques textes dans la parole et que ça puisse peut-être ce soir nous encourager les uns les autres. Parce que ce que je voudrais faire ce soir, c'est nous encourager. Par exemple, le premier texte où on retrouve ça, rappelez-vous, dans 1 Samuel 16, 1 Samuel chapitre 16. Alors c'est ce fameux chapitre, vous vous rappelez, quand Dieu va envoyer Samuel pour choisir le nouveau roi à la place de Saül. Saül venait d'être rejeté. Et puis il est dit ceci, 1 Samuel chapitre 16 verset 4. Il est dit: Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Et lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Et en principe, c'est un verset qu'on aime beaucoup. Hein. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Le moins que l'on puisse se dire, c'est que pour Samuel, ce jour-là, quand le premier des fils de Isaïe s'est présenté devant lui, c'était une évidence. C'était lui. Vous avez remarqué le verset 6, c'est fort, moi ça m'a interpellé. Hein. Il se dit en voyant Eliab: certainement. Verset 6, tu peux me le remettre juste avant. Hein. Verset 6, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc dans son esprit, ça faisait aucun doute. Il a pas hésité. Pour lui, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait même pas 98%. C'était sûr. C'était une évidence. Vous voyez, et il avait tout pour lui, quoi. Il avait la hauteur, il avait la prestance, il avait tout ce qu'il fallait. Donc pour Samuel, c'était bon. Sauf que, pour Dieu, c'était pas si évident que ça. Pas si évident que ça. Vous voyez, et pourtant, je me dis une chose, c'est que là, ici, on a affaire à quelqu'un de sérieux. Samuel, c'est quelqu'un de sérieux, c'est un homme de Dieu remarquable. Si vous étudiez sa vie, vous vous rendez compte que il n'y a rien à reprocher. Si, enfin, je veux dire, reprocher. c'est même pas reproché. Il a eu des soucis avec ses enfants, comme quoi, vous voyez, c'est pas nouveau les soucis avec les enfants. Déjà, Samuel, il a eu des soucis avec ses enfants, vous voyez. Mais à part ce, j'allais dire, ce côté négatif, mais j'allais dire, on va pas l'accabler, hein. Après ça, Samuel, c'est un homme de Dieu, quoi. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, même les gens ont dit, mais quand il arrivait à la fin de sa vie, quand il a fallu établir des nouveaux juges et qu'il a voulu mettre ses fils, la Bible dit que lui, il était impeccable. On a dit, mais toi, tiens, ce qui n'est pas le cas de ses fils. Voyez donc. Mais pourtant, à ce moment-là, il se trompe. Pourtant, pour lui, c'est une évidence. Il est sûr de lui, il est sûr de son compte. Mais il se trompe, voyez. Et Dieu dit alors que Samuel dit, c'est lui, Dieu dit, je l'ai rejeté. Vous imaginez un peu le décalage, voyez. Et ici, on est quand même, c'est ça qui est important et que je voudrais faire ressortir, c'est qu'on est quand même à un moment important là. C'est le nouveau roi qui va être intronisé, c'est le nouveau roi qui va être oint, qui va être, entre guillemets, élu. Voyez. Imaginez que quelque part, il soit resté là-dessus et qu'il ait mis Éliab sur le trône, mais il aurait mis sur le trône quelqu'un de rejeté par Dieu. Vous imaginez un peu. Et imaginez un peu les conséquences que ça aurait eu derrière. Quelqu'un de rejeté qui règne sur le peuple d'Israël, rejeté par Dieu, qui règne sur le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça aurait donné? Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais à mon avis, ça aurait été une catastrophe. Voyez. Et là, on est dans un carrefour important. Il ne fallait pas se tromper. Et c'est là où j'en arrive à nous. C'est que je crois que de la même façon que à ce moment-là, le peuple d'Israël était un carrefour important, dans nos vies, il y a des carrefours importants. Et il ne faut pas se tromper. Et justement, dans ces carrefours-là, il faut faire justement attention aux évidences. Voyez. Alors, de quoi je parle? Alors, je vais vous citer quelques carrefours. Par exemple, le mariage. Ben, ils vont mieux pas se tromper. Hein. Parce que quand vous vous trompez, après, mais je ne juge personne. Hein. L'avenir professionnel. Aujourd'hui, c'est important. On peut pas faire n'importe quoi. Hein. Il y a 50 ans en arrière du travail, vous en trouviez. Aujourd'hui, voyez. Je pourrais parler de certains, dans le domaine financier. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais je pense à ça. Faire un prêt. Bon, tout le monde le fait aujourd'hui. Mais quand on y réfléchit, tout le monde le fait. Il y a des prêts, ça nous engage. Hein. Si c'est un prêt d'un an, bon. Mais si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, comme pour une maison, par exemple, il ne faut pas se tromper. Hein. Parce qu'après, derrière, il faut, vous voyez, il y a des carrefours. Des fois, il faut un déménagement. Voyez. Tout ça, c'est des carrefours. Et dans nos vies, il y a tout un tas de carrefours où il vaut mieux pas se tromper. Et on ne peut pas se contenter de, j'allais dire, simplement de se dire, c'est une évidence, c'est ça. Voyez. Un peu comme ici, là. Voyez. C'est pour ça que c'est tellement important dans tous les choix qu'on a à faire de tout mettre entre les mains du Seigneur. Et ce soir, je sais pas, peut-être quelqu'un est devant un carrefour là, important de sa vie. J'aimerais peut-être te dire de la part du Seigneur, attention aux évidences. Des fois, c'est tellement évident que c'est pas ça. Tellement évident que c'est pas ça. La preuve ici. Hein, voyez. Et c'est pour ça que moi, je crois de tout mon cœur que quand on est honnête avec Dieu et qu'on remet tout entre les mains du Seigneur, à un moment donné ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur, il nous montre. Ou il ferme une porte, ou il va l'ouvrir parce que c'est lui qui le fait, ou quelque part, il va susciter quelque chose qui va faire qu'on va comprendre que c'est là, ou que c'est ça, ou que c'est pas ça. Voyez. Moi, je crois que quand on est honnête avec Dieu, pas quand on le met devant le fait accompli, mais quand on est vrai, Dieu nous montre. Dieu nous dirige, Dieu nous conduit. J'aime bien cette prière du psaume 143, David qui dit « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Et si ce soir on est devant des choix à faire, on ne peut pas se contenter de dire « Ouais, ben c'est évident, c'est ça. » De toute façon, des fois, ça peut être le cas, mais pas forcément. En tout cas, cette histoire-là, elle est là pour nous interpeller, hein, sachant que Dieu, lui, il voit ce qu'il y a derrière. Hein. L'Éternel, lui, il regarde au cœur. Lui, il voit les tenants, les aboutissants, il voit ce qui se voit pas. Vous voyez, pour Samuel, c'était tellement évident, mais pour Dieu, ça l'était pas du tout. Et je crois que quelque part, ça doit nous interpeller. Un autre texte où on retrouve cette vérité, il faut pas se fier aux apparences, et là aussi, je voudrais peut-être nous encourager ce soir. C'est pas très loin, c'est juste après 1 Samuel 17, David et Goliath. Qu'on a l'histoire, hein. Prenez l'histoire, c'est pour ça que je vais juste prendre ce qui m'intéresse. Rappelez-vous, à un moment donné, David, devant les menaces de Goliath, il veut y aller. Regardez, verset 31, 1 Samuel 17, 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on en a trouvé un qui veut y aller. Il y a un kamikaze. Donc, en général, quand on en trouve un, hein, vas-y. Hein. On est bien content déjà d'en trouver un. Alors, c'est bon, vas-y. Hein. Alors, donc, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et là, regardez verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Et ça, c'est très intéressant quand on y réfléchit. Parce que quelque part, pour Saül, c'est une évidence, il va se faire massacrer. C'est une évidence, massacrer, crabouiller, enfin, soit ce que vous voulez. Mais enfin, il ne va pas rester grand-chose à la sortie. C'est évident. C'est évident. Et puis, vous avez remarqué, les arguments, ils sont pas, c'est pas des arguments bidons qu'il lui donne. Hein. Tu ne peux pas y aller, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Lui, il a l'habitude. Hein. Lui, il se tape des soldats tous les matins, aux 4 heures, il en prend 4, vous voyez. Lui, il a l'habitude. Mais toi, mais David, non. C'est évident que tu vas te faire massacrer. Et je vais vous dire, humainement parlant, il a raison. Il a raison, on ne va pas dire à Saül, bon Saül à ce moment-là il est déjà à côté de la plaque, hein. Il n'y est plus dans le coup. Mais humainement parlant, il a raison, vous voyez, et on ne peut pas lui reprocher, sauf qu'on connaît la fin de l'histoire. Et on sait ce qui va se passer, hein, et comment Dieu va se manifester. Vous savez, je crois que ça nous montre une chose, c'est que s'il y a quelque chose que l'ennemi de notre âme va s'évertuer à faire, c'est de nous essayer de nous faire avaler tout ce que j'appelle des évidences humaines. Vous voyez ? Tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi. C'est terminé. Ça ne fonctionnera plus. Ça ne marchera plus. Il n'y a plus rien à faire. Hein, etc. etc. Vous voyez tout ça ? Et c'est vrai que, humainement parlant, tout ce que je viens de dire là, c'est vrai. Il y a des situations... On ne peut pas y arriver, hein. On n'y arrivera pas, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, on a tout fait. Ouais, c'est vrai. Sauf que, et je reviens au texte qu'on a lu, moi je trouve ça très intéressant, l'argumentaire de Saül. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. J'ai envie de dire oui, mais un enfant de Dieu. C'est ça la différence. Tu es un enfant, c'est vrai, mais un enfant de Dieu. Je crois que c'est important de réaliser que nous sommes enfants de Dieu. On appartient au grand roi. Notre vie, elle n'est pas entre les mains de n'importe qui. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver face à des évidences humaines, mais nous, la différence, c'est qu'on est enfant du roi. On est enfant de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, de celui qui tient tout entre ses mains. Hein? Maintenant, si on n'est pas enfant de Dieu, ça c'est autre chose. Hein? Si on n'a pas fait ce qu'il fallait, si on n'a pas donné notre cœur au Seigneur, si on n'a pas pris d'engagement avec le Seigneur, ça c'est autre chose. Mais si on est enfant de Dieu, voyez, c'est autre chose. Voyez, et c'est tellement important de réaliser que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est contre nous. D'ailleurs, vous connaissez ce verset, regardez 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je l'ai mis parce que je crois que c'est important. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, alléluia, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. Hein. Il est plus grand que tous ceux qui veulent nous faire la guerre. Voyez, et c'est pour ça que ce soir, je pourrais nous poser la question. Je pourrais nous poser la question. C'est quoi l'évidence qui se dresse devant nous? C'est quoi le géant qui est devant nous? C'est quoi le Goliath? Ou c'est qui ou c'est quoi le géant qui se dresse devant toi? Parce que la vie, elle est faite. Cette histoire, ce n'est pas qu'une histoire du passé. C'est encore une histoire d'aujourd'hui. Des Goliaths, des géants qui se dressent devant nous. Mais il y en a des tas, hein. Il y en a des tas. On a prié pour nos frères et nos sœurs, la persécution, la maladie, c'est un géant, des situations, on ne sait pas quoi faire, c'est des géants tout ça. Vous voyez, c'est quoi qu'on ne peut pas y arriver, que quelque part on se dit que c'est terminé. C'est quoi l'évidence qui est là devant nos yeux? C'est quoi? Voyez. Alors peut-être qu'on pourrait dire, ben moi, mon évidence, c'est ça, c'est que c'est fichu, c'est terminé, il n'y a plus rien à en sortir, il n'y a plus rien qui pourra changer. Il n'y a plus rien qui pourra changer. Oui, effectivement, humainement parlant, c'est vrai. Sauf que on est enfant de Dieu. Et que ça change la donne quand même. Ça change la donne. Voyez, c'est peut-être même l'occasion de faire une expérience avec Dieu. C'est quand même dingue que des fois il faille passer par certaines choses pour faire des expériences avec Dieu. Mais c'est comme ça, on le voit dans la parole. Et j'aimerais peut-être ce soir nous encourager face au géant qui est là devant toi, quel que soit son nom. Mais oui, c'est vrai, il y a une évidence qui est là, c'est que c'est plus fort que toi. De toute façon, un géant, c'est plus fort. C'est comme ça. Un géant, un Goliath, quel qu'il soit, qui se dresse devant nous, quel que soit le nom qu'on lui mette, c'est plus fort que nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se battre, on peut mettre de la bonne volonté, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est bien, il faut le faire. Mais à un moment donné, on est dépassé, quoi. Vous voyez ? Par définition, un Goliath, c'est plus fort. Ça, c'est une évidence. Mais il ne faut pas se fier aux évidences. Vous voyez ? Il ne faut pas se fier aux évidences. Je me rappelle, en préparant le message, je pensais à ça. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Des fois, je me dis, mais tu devrais écrire. On devrait écrire toutes les expériences qu'on fait avec Dieu, parce que souvent, on oublie. Et je me dis que si peut-être depuis qu'on est convertis les uns et les autres, on avait tout écrit, peut-être que des fois, ça... Et alors que j'étais en train de préparer ce message, il y a un truc qui m'est revenu. J'ai dit, c'est vrai. Et j'avais complètement oublié ça. Ça remontait à 30 ans. Mais il y a 30 ans, on est quoi, en 2018, ouais, 30 ans, ouais. À cette période-là, maintenant, il y a 30 ans, je passais mon CAP pâtissier. Ouais. Faut savoir que pendant 3 ans, donc j'étais dans une école de pâtisserie, tout ça, j'ai subi du harcèlement moral, des humiliations, je vais m'arrêter là, de la part de mon professeur de pâtisserie. Ça a duré 3 ans, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais j'étais sa tête de turc. C'est allé quand même assez loin, des humiliations devant tout le monde, rabaissé devant tout le monde, des paroles humiliantes, rabaissantes. Quand vous avez 16, 17 ans, 15 ans, parce que j'ai commencé à 15 ans, c'est dur, quoi. Et j'ai subi ça pendant 3 ans. Je partais chaque fois avec la boule au ventre. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je savais que j'allais encore me faire humilier, rabaisser. Quand un produit était présenté, vous mettiez celui d'un collègue. Lui, il avait la note qu'il fallait. Et puis moi, j'avais 5, quoi. Et quand je disais, c'est quoi la différence entre les deux, je ne la vois pas. Et en plus, il conteste. Je me souviens, ma mère m'a vu, me voyait... Parce qu'évidemment, pendant plusieurs mois, j'ai jamais rien dit. Et un jour, ma mère me voyant tellement, j'ai fini par cracher un peu le morceau. Elle a fait une nuit d'eux, elle est allée voir, ça a été pire. Ça a été pire. Parce qu'il m'a fait passer pour un menteur. Pour quelqu'un qui exagérait, qui fabulait, etc. etc. Ça a été pire. Bref. Et est arrivé le moment du CAP, où il m'a bien fait comprendre, toutes sortes de paroles, que si le jour du CAP, quand je passais, c'était mon tour de passer, c'était lui le correcteur, il me sacrerait. Oui. Donc, on passait par 20. Il faut savoir que ça se passe en 2 fois. Donc, il y a toute la partie pâtisserie. Et puis, 2 mois avant, donc début avril, donc c'est pour ça que je dis on y arrive, début avril, il y a la partie chocolat. Parce que faire du chocolat au mois de juin, du coup, c'est un peu compliqué. Vous voyez ? Donc cette partie-là, elle se passe en avril, début avril. Ça dure 2 heures et vous avez toutes sortes de choses à faire, des cloches, des chocolats, des œufs, des machins, etc. Voilà. Et cette partie-là, c'était mon point faible. J'avais beaucoup de mal. En plus, manque de chance pour moi, je ne supporte pas l'odeur du cacao trop forte. Ça me retourne le ventre. Donc bon... C'est pour ça que moi et le Nutella, c'est pas mon copain. Bon, bref, ça c'est autre chose. Ne m'offrez jamais du Nutella. Rosetta, oui, mais pas moi. Bon, je passe ce jour-là. On arrive, on est 20, c'est le matin. On arrive à 7 heures. Et puis, c'est le jour où je rentre dans la salle. Et qui je me vois. Sauf qu'entre-temps, je m'étais converti. Et que on avait fait un sujet de prière à l'église. Et je rentre ce jour-là et la première personne que je vois, c'est lui, avec un petit sourire. Et là, je peux vous dire que j'ai prié, j'avais prié avant, l'église avait prié avant, etc. Et je dis, Seigneur, c'est une évidence, j'y arriverai pas. Il est là, rien que de le voir, déjà, j'avais la boule au ventre, j'étais tétanisé, j'arrivais plus à avancer, j'avais les mains qui tremblaient, je transpirais. Alors, quand vous faites du chocolat, il faut surtout pas transpirer parce que les températures sont importantes. Donc, c'était une évidence, j'y arriverai pas. C'était comme un Goliath qui était là. Ce gars-là, c'était le Goliath, quoi. Et il s'est passé. Ouais, moi, je dis, c'est un miracle. Parce que vous avez 2 heures pour faire l'épreuve, et les 2 heures, il les faut. Hein. C'est, vous avez. Faut vraiment. Si vous arrivez à terminer 2-3 minutes avant, c'est vraiment. Voilà. Et ce jour-là, je suis sorti le premier 20 minutes avant. En ayant tout fait, en ayant tout démoulé, tout était impec. J'en revenais pas moi-même. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Quand j'ai eu fini, j'ai tout posé, je suis allé voir, vous partez déjà, oui. Mais il reste encore 20 minutes, oui, mais j'ai fini. Ça. Je revois encore la tête du gars qui est allé voir sur la table. Vous voyez, bon, j'ai eu mon CRP, etc. Mais je dis tout ça pourquoi? Parce que c'est une évidence et je ne pouvais pas y arriver. Avec tout ce que j'avais subi avant. Mais la différence, c'est que le Seigneur était là. Il y a des fois des situations où c'est une évidence, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas s'en sortir, on n'y arrivera pas, ou humainement parlant, c'est une évidence. Mais la différence, c'est qu'on est enfant de Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur a décidé que non, si le Seigneur a décidé autrement, ça se fera, ou ça ne se fera pas. Mais c'est ce que le Seigneur décide qui se passera, qu'importe ce que les hommes pensent, qu'importe l'évidence qui est là, qu'importe tout ce qu'on peut nous dire, qu'importe ce que la tendance, les statistiques, tout ce que vous voulez. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est contre nous. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais t'encourager. Il y a peut-être un Goliath, oui, c'est plus fort, c'est une évidence. Mais la différence, c'est que nous, on est enfants de Dieu. Alléluia. Puis, un dernier texte. Allez, je pensais aussi à ce passage dans le Nouveau Testament qu'on connaît bien. Regardez, acte 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, super, hein, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Et il ne voulait pas qu'il s'en aille, hein, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et là encore, vous avez une évidence, il va mourir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive d'autre? Jacques y est déjà passé. Il est déjà passé. Il a subi, voyez, voyez. Et puis le Hérode, là j'allais dire vous avez un Goliath, voyez, qui a tous les pouvoirs. Lui, quelque part, il voit que ça fait plaisir aux Juifs, il voit que sa cote de popularité va monter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil avec Pierre. Et c'est une évidence, il va mourir, Pierre. C'est évident, il va subir le même sort. D'ailleurs, verset 4, on a lu, dans l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Son intention, elle est là, elle est claire, elle est nette, elle est sans ambiguïté. Il va le faire mourir. Et ça va plaire à bien des gens. C'est une évidence. Vous voyez, c'est une évidence. Mais ce que j'aime, c'est que face à l'évidence, il y a le verset 5. C'est ça qui est, je voudrais laisser là encore sous nos yeux. Hein? Oui, Pierre donc était gardé dans la prison. Oui, il va mourir, humainement parlant. Oui, c'est vrai. Mais l'Église, elle ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Face à l'évidence, l'Église, elle prie. Alléluia. Et ça m'a béni, ça m'a touché. Vous connaissez la suite. Hein? Déjà, Pierre, il vit ce que j'ai dit tout à l'heure, le calme dans la tempête. Il dort. Il dort comme un bébé. Alors, je ne sais pas comment il fait. Ma foi, il dort. Hein. Moi, je me dis, les soldats à côté devaient le regarder, se dire, mais c'est pas possible. Quoi. Comment il fait pour dormir là? Nous, on n'arrive pas à dormir. On ne peut pas dormir, d'ailleurs. On n'a pas le droit. Et lui, il dort comme un bébé. Et puis, vous rappelez, l'ange arrive. D'ailleurs, il dort tellement bien que l'ange, il est obligé de le... voyez. Et puis, vous rappelez ce qui se passe. Hein. Il passe la première garde, la deuxième garde, la porte de fer qui s'ouvre. Et à un moment donné, il revient à lui, il pensait qu'il avait un songe, vous voyez. Et puis c'était la vérité, vous voyez. C'était la vérité. Mais ce que j'aime, c'est que l'Église, elle ne s'est pas arrêtée devant l'évidence. Elle aurait pu dire, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Il y a des situations, mais je le reconnais, ma chère, alors je ne parle pas de la vôtre, je parle de la mienne. Ma chère, elle me dit, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne peut pas marcher, on n'y arrivera jamais, etc. Ou, ça, c'est ma chère qui le dit. Mais quelque part, l'esprit de Christ qui est en nous, il nous dit, oh, oh, oh. Hein? Et c'est là que, voyez, on reprend courage. Et je crois que là, il y a un bel enseignement pour nous, c'est que face à toutes nos évidences humaines qui sont là, où on se dit, mais là, c'est mort, hein, comme là, c'est mort. Vous voyez, notre grand privilège, c'est que nous avons un refuge. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. De pouvoir venir dans la présence du grand roi. Et j'aimerais peut-être nous encourager les uns les autres. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi. Dans ces moments-là où l'évidence... permettez-moi l'expression, elle crève les yeux, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, on n'y arrivera pas, enfin, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Ben, venons dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que Dieu va renouveler nos forces, c'est là quelque part que Dieu va peut-être nous empêcher de sombrer dans le découragement ou dans l'abattement, mais que Dieu va nous renouveler dans sa paix, que Dieu va nous renouveler dans sa joie. Et des fois, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ça souffle partout, mais vous êtes dans la paix, vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est ça, dans la présence de Dieu. Et souvent, le problème, c'est que quand on est face à des situations difficiles, c'est là où on a du mal à venir dans la présence de Dieu. Et je le dis pour moi. Je parlais mardi soir, pour ceux qui étaient là, du frère Vautier par rapport à la situation de sa fille. Et je vous encourage à continuer à prier pour elle. Hein. Qui disait ça, on vous dit, quand vous êtes dans un moment difficile, et on le sait, et c'est vrai, hein, que la victoire elle est dans la louange, et c'est vrai, il dit là, c'est vrai que dans la louange on est là et quelque part, et il dit, mais quand vous passez par des difficultés, la louange c'est la dernière chose que vous avez envie de faire, hein. C'est difficile, hein. Et pourtant on sait que quelque part, ben, ça fait du bien de louer Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, disait David dans le psaume 34, voyez. Mais venons dans la présence de Dieu face à toutes nos évidences. C'est là que Dieu nous fortifiera, nous renouvellera. D'ailleurs, elle est marrante, cette histoire. Quand il vient frapper à la porte, on rappelle un peu l'histoire. Hein. C'est la voix de Pierre. Au lieu de l'ouvrir, elle se barre de l'autre côté. Ben, il y a Pierre, hein, tu es folle. Vous voyez, bon, c'est marrant, parce que on ne va pas la blâmer. Peut-être que moi, j'aurais fait pareil. Alors, hein, j'aurais peut-être dit, il y a un coup tordu du diable, là. Il y en a un qui se fait passer pour Pierre devant la porte. C'est pas vrai, c'est pas lui, il est en prison. Vous voyez, mais bon, bref, mais venons dans la présence de Dieu. Après, Dieu fera ce qu'il voudra, hein. Après, Dieu fera ce qu'il voudra. C'est lui le grand décideur, c'est lui qui fera. Mais Seigneur, aide-nous à venir dans la présence de Dieu, dans ces moments-là, de ne pas se couper de la présence de Dieu, de ne pas se couper de la communion avec Dieu. Regardez, j'ai relevé encore un dernier exemple dans Actes 8. Vous avez encore là, encore, il ne faut pas se fier aux évidences. Il est dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Vous imaginez un peu le décor là, c'est pas la joie, hein. À grand bruit, c'est ça. Ouf, regardez, solde. Et déjà le verset 2, mais le verset 3, ça monte d'un cran. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, le verset. Tu peux me le remettre, le verset 3. Le mot là, le verbe ravager dans le grec, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai demandé. Je me suis rencardé, on me l'a dit. À quelqu'un qui sait, qui lit le grec. Hein. Le mot ravager, là, c'est dans le terme de marquer, d'apposer une marque, d'apposer un stigmate, de faire mal. Oui. Ravager, vous voulez faire mal. Oui. Vous imaginez le tableau? Mais c'est une évidence, là. Vous avez là une évidence. À ce moment-là, l'Église est en train de prendre de l'essor. À ce moment-là, l'œuvre de Dieu est en train de se faire. Les choses sont en train de prendre forme. Et là, vous avez un coup d'arrêt. Pouah! C'est comme toutes ces situations où vous avez l'impression que ça va mieux, ah tiens, on commence un peu, et tout d'un coup, pah, vous en prenez une derrière les oreilles. Ça nous est tous arrivé, ça. On avait l'impression que ça, il y avait un peu mieux, il y avait un changement, il y a, tiens, et tout d'un coup, brah, vous prenez ça dans les dents, comme on dit. Voyez, ben, c'est un peu ça, là. Mais ce que j'aime, c'est le verset 4. Oui, c'est une évidence, c'est un coup d'arrêt. Mais ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et à partir de là, ce qui semblait être un coup d'arrêt a été finalement, au bout du compte, comme un accélérateur, un tremplin pour que l'évangile se répande encore plus. Et moi, je veux croire que de la même façon, dans nos vies, c'est pareil. Des fois, c'est une évidence. on en a pris une derrière les oreilles. On pensait que, on croyait que, on se disait que tiens, ça va mieux, tiens, c'est bien. Et puis tout d'un coup, paf ! Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Voyez, vous avez ça avec, pareil, dans l'Épître aux Philippiens, quand l'apôtre Paul, vous savez qu'il est en prison, et il va dire, Philippiens 1, chapitre 1, verset 12, « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé, c'est qu'il est en prison. » Donc l'apôtre Paul en prison, ben, on pourrait se dire, ah ben, c'est fini, hein, les missions, il n'y en a plus, il peut plus aller voir les gens, il ne peut plus prêcher l'évangile. Et ben, il va dire, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est fou ça, ça fait l'effet inverse. Moi je crois que des fois il y a des situations comme ça, c'est une évidence, c'est un coup d'arrêt, humainement parlant. Mais parfois derrière cette évidence-là, il y a le plan de Dieu. Il y a l'œuvre du Seigneur qui nous dépasse. Voyez. Alors, vous l'avez compris, je vais m'arrêter là, mais mon frère, ma soeur, ne nous arrêtons pas aux évidences. T'arrête pas aux évidences. Peut-être que l'ennemi veut nous montrer là. Et regarde, tu as cru, tu pensais que, regarde. Voyez. Arrêtons pas aux évidences. Dieu est plus grand que tout ça. Dieu est au-dessus des évidences. Et tous ces textes-là, il nous le montre. Il y en aurait certainement d'autres si on grattait un petit peu. Dieu est plus grand que tout ça. Et je crois de tout mon cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on aime le Seigneur, Dieu est là. Voyez. Et même si la tendance semble négative, c'est peut-être une évidence. Ouais. La tendance, elle est négative. Bon, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas les nier. On a les pieds sur terre. Hein. Oui, mais au-dessus de ça, il y a Dieu. Et Dieu, c'est notre Père, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est notre Père. Alors, que Dieu nous aide à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi, Seigneur, aide-moi à ne pas me focaliser sur les évidences, sur ce qui est là, qui sont vrais humainement parlant. Mais Seigneur, si tu es avec nous, alors les choses peuvent être tellement différentes. Et je voudrais que ça puisse nous encourager face à tous les défis qui sont là devant nous. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à ce que je vois, mais je veux lever les yeux un peu plus haut, je veux regarder à toi, Seigneur, et m'attendre à toi. Et le Seigneur va nous aider, va renouveler nos forces, va renouveler notre courage. Après, il fera ce qu'il veut, le Seigneur. Après, ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il fera comme il veut, mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à ce que je vois, mais je veux te faire pleinement confiance. Alléluia. Seigneur, merci encore ce soir.